Bonjour à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il fait partie de ces têtes très bien faites auxquelles on colle systématiquement le qualificatif brillante. Et de fait, son CV plaide pour lui, je vais pas tout vous raconter, mais il est notamment diplômé de Normale Sup, sorti dans les premiers de l'ENA, nommé en 1984 plus jeune Premier ministre de la 5e République. Il a aussi présidé l'Assemblée, il a été ministre de l'Économie, ministre des Affaires étrangères. À la COP21, c'est lui qui a donné le fameux coup de marteau, nous faisant espérer un monde de demain un peu plus frais. Depuis 2016, il préside le Conseil constitutionnel, ce qui en fait l'arbitre de la présidentielle, avec un devoir de réserve dont on se dit qu'il doit bien l'arranger, lui qui aime si peu se livrer, au risque parfois d'avoir l'image d'un homme qui aurait rangé son affect dans un de ses très nombreux dossiers. Mais aujourd'hui, il a accepté de nous, de vous parler, vraiment. Laurent Fabius est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Bonsoir, c'est dans le magnifique manège du centre hippique du Bois de Boulogne que nous nous retrouvons ce soir. À côté de moi, un nouveau candidat, monsieur Laurent Fabius, qui sera dans quelques instants interrogé en littérature et qui a choisi, vous vous en doutez, le jumping comme épreuve sportive.
Des gradins au perchoir de l'Assemblée nationale, le parcours de Laurent Fabius compte ce soir une haute marge de plus. Laurent Fabius, l'homme pressé du sérail socialiste. Cavalier émérite dans un jeu télévisé, c'était en 1970. Laurent Fabius tutoie toujours l'obstacle au rythme du galop.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
À 14h35, l'heure choisie pour une passation de pouvoir sans cérémonie ni protocole. Le nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, raccompagnait sur le perron Pierre Mauroy, dont il avait tenu à faire l'éloge la veille.
Il y a une jolie phrase, j'ai oublié l'auteur, qui dit « Si ceux qui disent du mal de moi savaient précisément ce que je pense d'eux, ils en diraient davantage. »
Il n'a pas encore le blouson noir des bikers, pas d'aigle sur le dos, mais il pose. Casque à la main, chemise largement ouverte et sourire radieux, il pose à cheval sur son rutilant bolide. Enfin, c'est juste une 125 cm3, ce qu'on appelle dans le jargon, précise-t-il, un custom, pas vraiment pêcheur, connaît-il. Son intimité est passionnante. Exemple, scoop. Il adore les carottes râpées toutes préparées. C'est pas fini. Laurent Fabius, bac plus 10, ENA et Normale Sup, le confesse. J'aime bien regarder Star Academy, il m'est même arrivé de voter par téléphone avec un de mes fils.
Ils sont 16 à vouloir devenir stars. Travail, rigueur, précision, sous vos yeux, ils vont devoir tout donner.
Dans l'affaire du sang contaminé, après Georgina Dufoy et Edmond Hervé, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius a été mis à son tour en examen pour complicité d'empoisonnement par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République.
Georgina Dufoy et Laurent Fabius sont relaxés. La vérité est enfin reconnue, précise dans un communiqué l'ancien Premier ministre, qui se déclare déterminé à se tourner à nouveau vers le travail de fond et vers l'avenir.
J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Paris gagné pour le ministre des Affaires étrangères qui a fait signer un accord international pour lutter contre le réchauffement.
J'ai une pensée particulière pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
Oui, je pleure souvent quand je regarde des films romantiques. Ça arrive souvent. À la télévision, pas souvent.
Dans le parc au point du jour, elle voulait qu'on se promène. Je devais lui faire la cour, mais pas l'amour, mais pas l'amour. Elle commençait un poème et s'enfuyait en pleurant. De loin me criait je t'aime, dans le vent, oui, dans le vent, moi l'amour 1830.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Hors Piste, Laurent Fabius.
Bonjour.
Je suis déjà très inquiet parce que je vous ai vu prendre plein de notes pendant le portrait.
Oui, parce que comme ma mémoire peut être défaillante, je regardais les différents chapitres de ma longue vie que vous aviez abordée.
Et bon, on va y revenir. Je suis à la fois très heureux, vraiment, et très surpris que vous soyez là, Laurent Fabius. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Heureux, bah vous allez me le dire. Surpris parce que j'accepte rarement de parler de moi.
Ouais, je crois que vous êtes dans le top 10 des hommes que l'on imagine le moins faire du hors-piste dans la vie. Instinctivement, on se dit, Laurent Fabius, il est toujours dans le contrôle. C'est une image trompeuse ou ça correspond bien à ce que vous êtes, à votre caractère ?
Oui, ça correspond assez bien à mon caractère, mais aussi à une volonté. On va parler, j'imagine, de ce qu'a été ma vie, et une grande partie de ma vie a été une vie publique.
Oui.
Bon, mais j'ai pas voulu que ma vie publique mange ma vie privée. Alors je reconnais que c'est un peu vieux jeu, parce qu'aujourd'hui tout est mélangé. Mais moi j'attache beaucoup d'importance à ma vie personnelle, à mon jardin secret. Et en plus je trouve que si on doit juger les personnages publics, c'est sur leur activité publique. Mmh. Et pas sur la façon dont ils chantent sous la douche. Voilà, c'est
vous chantez sous la douche ?
Non, mais j'aime beaucoup Julio Iglesias, qui est souvent, je l'écoutais sous ma douche. Mais voilà une première confidence. c'est une conception de la vie publique qui aujourd'hui est un peu dépassée, puisque aujourd'hui, pour mille raisons, on mélange un peu tout.
C'est quoi votre définition du lâcher-prise, Laurent Fabius ?
Lâcher-prise, c'est se laisser aller, c'est tout.
Est-ce que c'est compatible avec la politique aujourd'hui ?
Ça doit être très difficile, parce que désormais, la politique a envahi la vie privée, a envahi la politique, je ne vais pas vous faire un laïus sur les réseaux sociaux, mais maintenant tout est mélangé. Et je pense que c'est très difficile de revenir en arrière, parce que c'est fondé sur l'évolution des technologies.
Oui. Mais est-ce que la contrepartie, le contre-champ de ça, c'est pas la difficulté à briser la carapace, à fendre l'armure, comme avait dit Lionel Jospin à l'époque ? On sait que pour convaincre les Français, pour leur parler, il faut parfois donner un peu de soi ?
Oui, bien sûr. Non, mais ne me présentez pas quand même, j'espère que c'est pas votre sentiment de fond, comme un être distant, qui, que quoi, dont où. Non. Mais c'est vrai, si on revient à cet intéressant sujet qui est moi-même, que on me présente toujours de la même façon. Et là, c'est là où mon petit papier me sert. Bon, c'est vrai que j'ai fait un jeu télévisé dans les années 70, à la fois parce que j'étais bon cavalier et surtout parce que ça me donnait des permissions. À l'époque, je faisais mon service militaire. Donc, pour préparer l'émission, j'étais sur un bateau et le commandant de mon bateau m'a laissé plusieurs permissions. Mais, et donc, à chaque fois que j'accède à une fonction quelconque, on reprend à la télévision, maintenant à la radio, cette émission, ce jeu télévisé. Je précise d'ailleurs en passant que je ne saurais plus répondre aujourd'hui à aucune des questions qui m'étaient posées.
Et pourquoi vous faites ce jeu à l'époque ? Qu'est-ce que vous recherchez ? C'est le plaisir du jeu, c'est le côté ludique, c'est la télé, c'est l'image.
Puisque vous posez deux questions de fond. La première, c'est que pourquoi est-ce qu'on est allé me chercher ?
Oui.
C'est parce que cette émission, il fallait faire à la fois la tête et les jambes, c'est la même personne. Et il trouvait de moins en moins de candidats. Et en particulier dans le domaine équestre, puisqu'à l'époque je faisais du concours hippique, je crois qu'il y avait une expérience qui avait été assez malheureuse. Donc il voulait rectifier un petit peu l'image. Bon, ça c'était du côté des organisateurs de l'émission, Pierre Belmar, etc. Et de mon côté, je vous dis, je faisais mon service militaire dans la marine, et quand on m'a proposé ça, j'en ai parlé au commandant de mon bateau. J'étais à l'époque sur un bateau qui s'appelait La Romanche, qui était un porte-avions qui datait de dizaines et des dizaines d'années. Et le commandant m'a dit oui, ce sera bon pour l'image de la marine, et je vais vous donner des permissions. Bon, et donc j'ai fait cette émission. Il se trouve que j'ai gagné. Il y avait 5 semaines. Et, sauf erreur de ma part, j'ai gagné une somme qui n'était pas du tout négligeable, et ce qui m'a permis, nouvelle permission, d'aller faire la connaissance du Japon. Donc, je dirais que c'était tristement intéressé.
Mmh. Et vous disiez que...
Mais à l'époque, maintenant, je ne le referais sous aucun prétexte. Mmh. Parce que il y avait très, très peu de chances que je gagne. Mmh. Enfin, sauf que le cheval était bon, quand même.
Vous disiez à l'instant, c'était bon pour l'image de l'armée. On revient à ces questions d'image. Oui. Quand vous avez essayé de briser l'armure, on se souvient, et vous avez été moqué pour ça, les carottes râpées, la moto,
oui,
etc.
Oui, oui. C'est un très bon exemple. Oui. La moto, etc. Je ne vais pas m'enfermer dans le ridicule, mais je parlais de... Je ne me rappelle plus exactement dans quel bouquin que j'ai écrit c'était, mais j'essayais de décrire à la fois la France telle qu'elle était à l'époque, moi-même, etc. Et donc je parlais, et ça c'était une exception, de ma vie...
Vous cherchiez à devenir le candidat socialiste
de ma vie quotidienne.
De 2007.
Et on a, je crois qu'il y avait d'autres choses dans ce bouquin, mais on a retenu cette phrase.
Mais est-ce qu'on
est... Ce qui prouve bien que c'était une erreur.
Est-ce qu'on est trop dur, nous, les journalistes, peut-être avec vous, les politiques? On a le sentiment... Alors, quand vous vous lâchez un peu, on dit, oh là là, ça c'est de la grosse ficelle de com'. Et quand vous dites rien, on dit, bah oui, mais ils sont dans le non-dit. Et dans le même temps, les Français, ils s'en demandent de quoi? Est-ce que vous le savez? On a l'impression qu'ils s'en demandent
de ça. Ils sont en demande. De
oui,
quoi?
Ah oui, c'est ça.
Moi, je vous dis mon sentiment personnel, mais je donne de leçons à personne. Je crois que un responsable public, politique en l'occurrence, il doit être jugé sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir son jardin privé. Ça ne veut pas dire non plus qu'il a des choses à cacher. Donc moi j'ai pris cette détermination après d'ailleurs plusieurs erreurs. Hein, l'erreur, vous l'avez rappelé, des guerres attrapées. Bon, mais j'ai pris cette détermination. Alors, ça a un inconvénient, c'est qu'on apparaît un petit peu lointain, distant, mais ça a aussi un énorme avantage qui est que on a une vie personnelle. Je pense d'ailleurs, pour élargir un petit peu votre question, ce mélange vie privée, vie publique, absolu, aujourd'hui, est une des raisons pour lesquelles il y a de moins en moins candidat de grande valeur à la fonction politique.
Pourquoi ?
Parce que si vous vous engagez en politique aujourd'hui, vous serez considéré a priori comme malhonnête, vous divorcerez au moins deux fois, vos enfants seront traités de ceci, de cela, on vous accusera, ce qui est faux, de gagner des mille et des cents, et vous travaillerez 24 heures sur 24, et vous ne pourrez pas avoir ensuite une autre activité, puisque la vie publique vous aura condamné. Et du coup, et je pense que c'est un mal pour le pays, on a de moins en moins de vocations politiques. Les jeunes, vous avez des jeunes autour de vous, moi aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pas du tout de la politique. Ceux qui ont une vocation, disons, humanitaire, ou qui ont des idées de générosité... ils veulent s'engager pour une grande cause, ou bien ils veulent aller dans une entreprise, mais dans la politique très très peu. Et ce sera extrêmement coûteux pour le pays. Car si vous n'avez pas des responsables publics, évidemment honnêtes, mais de grande qualité intellectuelle et qui ont un vécu intéressant... Eh bien, ça coûte très cher au pays.
La politique n'intéresse plus, n'attire plus les esprits les plus brillants aujourd'hui, c'est ce que vous dites là?
Il y a des exceptions. Mais je trouve, là encore je vais paraître un petit peu peut-être vieux jeu, que les responsables publics sont, en réalité, notamment pour l'honnêteté, aujourd'hui, bien mieux que leur réputation. J'étais très frappé par une étude d'opinion, vous avez dû la voir, qui est publiée récemment, où on demandait, enfin je ne me rappelle plus le libellé exact de la question, mais à l'opinion, qu'est-ce que vous attendez d'abord de l'élection, là, qui va venir? Et en numéro un, c'était que les responsables publics soient honnêtes. Bon, évidemment que c'est une exigence majeure.
Mais comme s'il y avait une présomption de malhonnêteté.
Il y a une présomption de malhonnêteté qui était peut-être fondée il y a 40 ans, 50 ans, circonstances étaient différentes, mais qui aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, est infondée.
On va reparler de vous, si vous voulez bien. C'est vrai que vous pleurez devant les films et que vous êtes romantique ou pas?
Oui, ça m'arrive, bien sûr, ouais. bien sûr. Pas d'être romantique, je le suis, certainement.
Ça veut dire quoi être romantique? D'abord, est-ce qu'on peut être romantique et politique?
c'est pas la première exigence, probablement. Non, il faut savoir aussi se maîtriser. Bon, mais se maîtriser, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une vie intérieure. Et quand on est soi-même ou en famille, on peut, comment vous avez dit, pas se laisser aller, mais laisser, vous avez employé une expression tout à l'heure, lâcher prise.
Lâcher prise.
Lâcher prise, lâcher prise ça peut vouloir dire rire, heureusement, ce qui est merveilleux et ce qui rallonge la vie. Ça peut vouloir dire pleurer. Ça vous arrive à vous? Enfin, c'est pas vous qui faites l'émission. Enfin, vous êtes questionné
mais
aujourd'hui.
Mais si la question est ce qui m'arrive de rire et de pleurer, la réponse est oui.
Ah,
j'irai
vous
pas
me rassurez.
Plus loin dans les confidences,
vous
mais
me rassurez.
Ça m'arrive. On entendait aussi dans le portrait le générique de la Starac, parce que vous êtes très chanson française.
Oui, pas seulement française.
Je vais pas vous demander si vous êtes pour le retour de la Starac, parce que c'est dans les tuyaux en ce moment.
Oui, j'ai vu que c'était dans les tuyaux. Je me rappelle plus la différence entre la Starac, The Voice, etc.
La Starac, ils étaient dans le château, vous savez.
Ah non, alors ça, c'est pas trop mon truc.
Plutôt
oui,
Voice,
quand ils étaient dans une piscine ensemble, etc.
Oui. Ah, je vois que vous avez des souvenirs précis, oui.
Non, j'ai lu la presse. Oui. The Voice, oui, ça m'intéresse.
La chanson est un art mineur, disait Gainsbourg.
Oui, d'ailleurs, il prouvait le contraire. Non, la chanson n'est pas un art mineur. Quand, pour ne prendre que les Français, quand vous entendez ce qui a été mon cas, alors évidemment, ça va paraître antédiluvien. Léo Ferré, Édith Piaf, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, et puis aujourd'hui, d'autres chanteurs qui sont excellents. Non, c'est pas du tout mineur. Et Brassens.
Alors vous chantez pas, vous peignez, Laurent Fabius. Je voudrais savoir ce que vous apporte le pinceau. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter avec le pinceau que vous ne dites pas forcément de la même manière avec le stylo?
Oh ben, ce sont deux arts très très différents. Moi, je n'ai jamais appris la peinture, mais un beau jour, je suis familier de l'art. Je suis moi-même d'une famille d'antiquaires, et j'ai fait une réaction négative pendant 30 ans.
Un blocage, on peut
un
dire.
Un blocage, puisque mon père nous amenait, mon frère, ma sœur et moi, tous les 8 jours au Louvre, etc. Et donc, par réaction, comme c'est le cas souvent des jeunes, j'ai fait un blocage. Et puis, vers l'âge de 30 ans, alors est-ce que l'atavisme, ça existe? J'ai repris goût à l'art, singulièrement la peinture, la sculpture. Et j'ai commis d'ailleurs un bouquin sur des tableaux qui font la France, qui s'appelle Le Cabinet des Douze. Mmh. Et je vais sortir à l'automne un autre livre sur, ça va vous surprendre, les polyptiques. Pas la politique.
Les polyptiques.
Les polyptiques. Alors quand je dis ça à mes amis, je vois dans leur regard... tout d'un coup une certaine brouillage. Alors d'abord,
ils
me demandent de répéter, ils croient que j'ai dit politique, ensuite je leur dis non, polyptique. Et alors pour les plus cultivés d'entre eux, ils savent à peu près de quoi il s'agit, mais immédiatement ils se posent un problème d'orthographe. Combien y a-t-il d'y dans polyptique? Alors bon, je vais
plus
loin.
Moi je dirais un, mais...
Non, il y en a deux.
Ah bah voilà.
Mais qu'est-ce que c'est que les polyptiques? Les polyptiques, c'est des tableaux à plusieurs volets.
Oui.
Voilà, bon. Moi-même, j'ai recours à, quand je peins, souvent, parce que l'atelier où je peins est trop petit pour avoir des grands formats, à des petits formats, donc à des volets multiples, qu'ensuite je rassemble et je stocke. Bon, et au-delà de mon cas personnel, qui m'a fait réfléchir, je me suis aperçu que les polyptiques, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, sont un type de peinture qui à la fois a eu à un moment un grand succès, et puis qui est retombé, et maintenant qui a de nouveau du succès. Pour être moins abstrait, enfin, sans jeu de mots, un peintre comme Pierre Soulages utilise très souvent les polyptiques. Un peintre comme Bacon utilise les polyptiques. Un peintre comme Riopelle utilise les polyptiques.
Donc, je ne doute pas de vos compétences sur les polyptiques, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi vous peignez. Qu'est-ce que ça vous apporte, Laurent Fabius?
Parce que la peinture, même si quand on n'a pas apprise, ce qui est mon cas, vous donne un sentiment de plénitude de l'expression, de communion. Et quand vous avez vous-même aimé des grands peintres, se frotter à eux et voir comment vous pouvez, vous, vous réaliser dans la peinture, c'est un plaisir extraordinaire. Mmh.
Vous évoquiez l'histoire familiale. Hein, chez les Fabius, on est marchand d'art sur 4 générations. Oui. Une histoire qui s'est construite autour de la boutique Fabius.
C'est terminé,
frère,
maintenant. Oui.
Que
oui.
Votre frère François, parti en 2006, a longtemps tenu.
Oui.
Vous avez toujours donné l'impression de vouloir vous tenir ostensiblement à distance de tout ça. Vous avez même parlé d'un blocage tout à l'heure. Pourquoi ?
Oh, c'est classique. C'est c'est la psychologie adolescente ou enfantine classique, on adopte exactement les mêmes pratiques, les mêmes goûts que ses parents, sa famille, ou bien on est en réaction. Ce qui finalement est réconfortant, c'est que après avoir eu des blocages, souvent on adore ce qui vous avait fait blocage.
Oui.
Bon, et donc ce drame, grand drame de l'adolescence, souvent est oublié à l'âge adulte. Ça a été mon cas.
Vous avez pu regretter finalement de ne pas avoir embrassé une carrière dans l'art ?
Non, parce que je crois que mon père et mon frère étaient antiquaires, et donc il s'agissait de vendre des sculptures et des tableaux, et je pense que j'aurais pas été bon pour ça. Créer l'art soi-même, c'est un autre problème.
Est-ce que vous avez été mal à l'aise avec cette image de fils d'antiquaire ? Est-ce que c'était compatible avec l'image d'un homme de gauche ?
Oh, c'est le vieux problème. Est-ce que...
C'est ce qu'on vous a toujours mis sur le dos, ça.
Oui, enfin... élargissons le propos. C'est est-ce qu'on peut à la fois être d'origine bourgeoise, qui est mon cas, et d'être de gauche ? Bon, la réponse est évidemment oui. Alors après, si on veut être plus argumenté, on vous citera Jaurès, Léon Blum, François Mitterrand, etc. Je ne dis pas qu'il faut être bourgeois pour être de gauche, attention.
Oui.
Bon, mais ça n'a... Il n'y a aucune contradiction.
Vous avez parlé de votre
frère. Et puis, ça a quand même un grand avantage, si je puis dire. J'avais eu une discussion un jour avec Jean Le Canuet. Vous dit quelque chose ?
Centriste.
Oui, alors Jean Le Canuet était maire de Rouen, et moi-même, ma vie politique s'est faite...
En Seine-Maritime.
En Seine-Maritime, à Grand-Quevilly, à Rouen. Je suis devenu d'ailleurs maire de Grand-Quevilly et président de l'agglomération de Rouen. Et donc, à la fin de sa vie, Jean Le Canuet, qui était un homme très intelligent, ne voyait pas d'un bon œil le jeune homme que j'étais, qui n'avait pas les mêmes idées politiques que lui, arriver chez lui. Et... il avait un jour, nous avons une discussion qui était assez vive, et justement, il m'a reproché mon origine bourgeoise, etc. Et à l'époque, j'étais peut-être un petit peu audacieux. Je lui dis oui, cher monsieur, mais la différence entre nous, parce que lui il disait je viens d'une origine populaire, etc. Bon, je lui disais, c'était très audacieux. Oui, mais la différence entre nous, c'est que vous venez d'une origine populaire et vous l'avez oubliée, tandis que moi, je viens d'une origine bourgeoise et je n'ai pas oublié la chance que j'ai eue et que d'autres n'ont pas eue. La discussion s'est arrêtée.
C'est le sens de la formule. On parlait donc de votre père, de votre frère et votre grand-père aussi, Élie, qui était un grand ami de Sacha Guitry. Vous avez des souvenirs d'enfant de Sacha Guitry ?
Ah, de Sacha Guitry, non.
Non, pas du tout.
Non, ouais. je ne suis pas de cette époque-là. Non, parce que mon grand-père, malheureusement, est mort parce que c'était pendant la guerre, et on a interdit, il était juif, on a interdit aux juifs de pratiquer le commerce des antiquités. Tout ce qu'il avait a été saisi, a été vendu à vil prix, et il est mort. Donc je ne l'ai pas connu. Mais mon père, lui, a vécu milieu des années 80, et il avait des frères qui étaient aussi dans son commerce d'antiquité. Et donc j'ai connu tous les frères, et même pour... il y avait un de ses frères, c'était une autre époque, qui avait une marotte, qui s'appelait Emmanuel, qui lui était un marchand d'autographes. Bon. Et qui était extrêmement cultivé, il avait été lauréat du concours général, etc. Et il était quand même un peu singulier, puisqu'il se promenait toute l'année avec des chaussures de ski. Bon, donc c'était quand même un peu particulier. Et quand nous le rencontrions avec mon frère, donc nous étions des petits-enfants, L'essentiel de la conversation, il nous posait des questions sur la multiplication et les additions. Et quand on répondait la bonne réponse, à ce moment-là, il sortait une montre Gousset, et autour du remontoir de la montre Gousset, il avait des petits anneaux en caoutchouc, et il nous donnait comme récompense un anneau en caoutchouc. C'est vous dire qu'il était un peu spécifique.
Un peu spécial, ouais.
Il avait été prisonnier avec le général de Gaulle.
Ouais.
C'est un homme extrêmement cultivé, et marchand d'autographes. Il avait une petite boutique. Il disait aux clients qui venaient je ne suis pas sûr que vous soyez digne de cet autographe. Donc, je veux dire que, du point de vue des affaires, c'était un peu particulier.
C'est sûr.
Voilà mes souvenirs de famille.
Bon, vous savez, on parlait de Sacha Guitry, que vous le citiez dans le portrait, vous disiez, je ne sais plus, qui disait, si ceux qui disent du mal de moi,
oui,
savaient exactement,
ah oui,
etc.
C'est
Guitry.
Oui.
Est-ce que c'est pas le meilleur résumé des rapports entre les politiques, y compris aux ceux qui appartiennent à la même famille?
Quel est le sens de votre question?
Bah de dire du mal en permanence et d'en dire encore plus de l'autre. Et...
Pardon.
Parce que vous n'avez pas toujours été... Fraise des Bois, c'est vous, François Hollande.
Non, c'est pas moi.
Ah si.
Non,
a-t-on jamais caché un éléphant derrière une fraise des bois? Vous ne l'avez pas dit, ça?
Ah, peut-être.
Ah, si,
peut-être.
Sûr, en 2003.
Oui, mais c'était pas... Non, ça, c'était
mignon.
Trop drôle. Non, c'est pas méchant. Non, si ce que vous voulez me faire dire est qu'il y a beaucoup d'animosité, de disputes, oui, au sein des formations politiques. Bon, la réponse est évidente. Maintenant, au-delà de mon triste cas personnel, essayons d'élever le débat à l'instant, en posant la question suivante. J'ai cru remarquer que dans toutes les collectivités, il y a des luttes de pouvoir.
Mmh.
Donc il serait quand même assez étonnant,
oui,
que la seule collectivité dans laquelle il n'y ait pas de lutte de pouvoir, ce soit la collectivité, ça s'appelle un parti politique, qui a précisément pour objet de prendre le pouvoir et de l'exercer. Bon, alors au-delà de cette remarque sociologique qui va plonger nos auditeurs dans une réflexion dont ils sortiront demain matin, bon, c'est vrai que souvent il y a des inimitiés, des méchancetés,
ouais,
et ça, elles sont regrettables. Alors, qu'il y ait des oppositions quand elles reposent sur des idées, ça c'est très bien. Mais quand c'est la petite politique, avec même pas un petit p, mais un tout petit p, ouais, ça c'est désastreux. Mmh. Ça c'est désastreux. Et il se peut, alors je confesse, qu'à tel ou tel moment, comme j'étais très jeune, j'ai cédé à cela. Mmh. Mais maintenant, avec la sagesse, c'est oublié.
Vous avez écrit en 95 un livre qui s'appelait « Les blessures de la vérité ».
Oui,
et, exact. Et je vais vous lire le début d'un papier que Libération avait consacré à cet ouvrage et qui était titré « Un Fabius enfin humain ». Pourquoi autant de gens me détestent-ils? Cette douloureuse interrogation est sans doute à l'origine de l'écriture du livre.
Oui, mais tout ça, c'est du passé, parce que aujourd'hui, bon, je ne suis plus dans l'actualité, et tout ça s'est estompé.
Mais est-ce que vous en avez souffert?
Ce dont j'ai souffert, c'est surtout que, mais j'en suis probablement un peu responsable, une partie de l'opinion publique, pas toute, ne voyait en moi qu'une partie de ma personnalité. Je m'explique. Si à l'époque, on avait demandé aux Français, on a dû leur demander d'ailleurs, Monsieur Fabius, d'où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Alors ils auraient dit Paris. Pas du tout. Ma vie politique, vous y avez fait allusion, s'est faite en Seine-Maritime, et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris auprès des Normands. Bon, j'ai été, ce qui est quand même un signe, député 9 fois de suite. Bon, donc, c'est probablement quand on est député 9 fois de suite et jamais battu, et il doit quand même y avoir un contact entre la population et vous-même.
Mais pourquoi à ce moment-là les Français
n'étaient
votre
absolument pas connu?
Votre deux chevaux garés sur la place de votre la place du Panthéon.
Oh, ça, alors c'est
vous
une
étiez...
anecdote qu'on a souvent rapportée et qui est juste. C'est tout simplement à l'époque j'avais une deux chevaux. Bon, et mon épouse d'alors, un jour, est arrivé à Matignon avec notre voiture. Bon, et alors on a dit, oh mais c'est génial comme communication, etc. Mm. Bon, non. Peut-être l'une de mes erreurs, bon, elle est vénielle, a été de pas faire apparaître la diversité des facettes. Vous avez dit dans votre gentil portrait introductif que j'avais fait des études brillantes, etc. Donc on m'a réduit à ça. Alors que c'était vrai, mais il y avait aussi autre chose que je n'ai probablement pas montré suffisamment.
On évoquait la période où vous étiez Premier ministre, vous avez aussi traîné comme un boulet une affaire qu'on évoquait dans le portrait, dans laquelle vous avez été jugé et innocenté, il faut le dire et le répéter, même des années après, parce que on sait qu'en politique, souvent les accusations restent... Et
l'affaire du sang contaminé.
Absolument.
Oui, oui, qui a été terrible.
Est-ce que ça reste une blessure, une cicatrice pour vous, Laurent Fabius ?
Maintenant, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup moins, mais à l'époque c'était quelque chose de terrible. D'abord, vous l'avez dit, parce que ça a été reconnu comme totalement injuste, pas seulement innocent, santé, mais dans le jugement qui a été rendu, il est dit, je cite de mémoire, que l'action que j'ai menée avait permis de sauver beaucoup de vies. Bon. Mais il n'empêche que, pour des raisons notamment politiques, bon, cette affaire a duré 10 ans de ma vie, et que je ne me sentais pas en situation de dire quoi que ce soit, parce que, par rapport aux victimes elles-mêmes, ma propre souffrance était infime. Et donc...
Mais dans votre intimité, elle était profonde, cette souffrance ?
Profonde, profonde. Bah, vous savez, quand vos enfants sont traités d'assassins, quand, etc. Bon, mais ça, c'est la... c'est une des choses, je vous disais tout à l'heure, le métier, la responsabilité politique est terrible, parce qu'on confond tout. Bon, et à l'époque, ça a été quelque chose de très très difficile. D'ailleurs, bon, ça m'a amené, ce qui est, vous imaginez, quelque chose d'épouvantable, à demander moi-même à l'Assemblée nationale de me mettre en accusation. Mmh. Ce qui est une histoire, j'allais dire, une histoire de fou. Mmh. Bon, mais je me suis interdit de me plaindre parce que, encore une fois, ma souffrance personnelle n'était rien du tout.
Vous avez cité vos enfants qui ont subi ça de oui. plein fouet. De manière plus générale, est-ce que la politique abîme la famille ?
Terriblement. Ben, prenez les exemples, vous-même. Maintenant, je n'ai plus de contact avec les milieux politiques ou des contacts très, très lointains. Mais vous-même, vous interviewez beaucoup de responsables politiques, vous, même si vous ne les voyez pas tous les jours, enfin, vous savez quelle est leur vie. Et c'est très rare que leur vie puisse être équilibrée. Et leur vie familiale est souvent... complètement perturbé.
On va maintenant écouter le titre musical que vous avez choisi. Et alors là, j'ai tout faux. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'imaginais que vous proposeriez un aria de Bach ou quelque chose comme ça. Et bam, Joe Dassin.
Toujours l'image.
Hein, c'est fou, hein. Joe Dassin. Quel titre vous avez choisi, Joe Dassin ?
Et si tu n'existais pas.
Absolument, c'est le choix de Laurent Fabius. Et si tu n'existais pas, Joe Dassin sur France Inter.
Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer.
Et si tu n'existais pas, Joe Dassin, c'est le choix de Laurent Fabius qui est dans Hors Piste aujourd'hui. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. La France va donc se choisir un président, Laurent Fabius. C'est le poste qui manque à votre carrière finalement. Il y a tout le reste. Est-ce que c'est un regret aujourd'hui, sincèrement?
Ça s'est pas fait. Bon, ça aurait pu se faire, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Bon, on peut avoir une vie heureuse et utile sans être président de la République, je vous le confirme. Bon, voilà.
Est-ce que c'est un regret?
Écoutez, je vais vous répondre d'une façon assez souriante. Plus je vois les difficultés des présidents de la République successifs, moins j'ai de regrets. Or, j'ai connu ça de l'intérieur, puisque, évidemment, j'ai très bien connu François Mitterrand, j'ai vu Chirac, un peu moins Sarkozy, aujourd'hui, je vois les difficultés auxquelles a à faire face Emmanuel Macron. À la fois, c'est une fonction magnifique, et en même temps, d'un point de vue humain, on ne peut la souhaiter à personne. Bon, voilà. Peut-être à un moment... parce que j'ai souhaité être désigné
la primaire en 2006 pour l'élection de 2007.
C'est assez amusant d'ailleurs, et il faut toujours faire preuve d'humour. À l'époque, il y avait trois candidats et qui étaient Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et moi-même. Et Strauss-Kahn et moi-même avons été écrabouillés par Ségolène Royal, après le vote, je crois, des militants socialistes. Et, je souris, c'est pas une apparence, et je crois la séquence décisive qui a abouti à notre écrabouillement, si ça existe, c'est une séquence qui a été consacrée à la politique internationale, où là, notre ami Ségolène Royal a, par ses compétences, ses choix, écrabouillé Dominique Strauss-Kahn, et ne parlons pas de moi-même.
Alors, à propos de politique internationale, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez eu affaire à Vladimir Poutine. Quelle image vous gardez de lui?
L'image qui est donnée aujourd'hui.
Vous n'êtes pas surpris?
Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Au-delà du sentiment personnel, une anecdote qui va nous amener peut-être à la COP21. Vladimir Poutine n'est pas connu pour être un partisan forcené de la lutte contre le dérèglement climatique. La situation en Russie, de ce point de vue-là, est très préoccupante. Et la Russie est le cinquième pays émetteur de CO2 dans le monde. Et donc, au moment où j'ai préparé la COP21, c'était François Hollande qui était président de la République, nous ne savions pas très bien ce que serait la position de Poutine. Et nous étions inquiets. Nous avions convaincu Obama, les Chinois, les Indiens, les Africains du Sud, etc. Mais Poutine, c'était incertain. Et je me rappelle une réunion qui a eu lieu juste avant à l'Élysée, où François Hollande dit à Poutine, en ma présence et la présence de Lavrov, mais enfin, Vladimir, on ne sait pas trop quelle est ta position, etc. Et Poutine, avec un sourire particulier, a dit « Soyez tranquille, je ne m'exprimerai pas ». Bon, c'était mesuré son degré d'enthousiasme.
On va revenir à cette COP21 que vous évoquiez, et on va se remettre dans l'ambiance de ce jour où vous avez conclu les négociations, c'était en 2015.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection, l'accord de Paris pour le climat est accepté.
Et on a entendu le petit coup de marteau, c'est l'objet que vous avez choisi,
hein, exact.
Le petit marteau vert avec lequel vous avez conclu ce... Alors c'était incroyable, il y avait une ambiance de stade du foot, c'était pas un but en finale de Coupe du Monde, c'était la conclusion d'un sommet international. Et derrière, il en reste quoi ?
Alors revenons d'abord sur cette journée du 12 décembre 2015. Bon, nous y avions travaillé, moi-même qui présidais la COP21, pendant 2 ans. Donc c'était 2 ans extrêmement intenses. Et je me rappelle le week-end avant la COP, c'était pas très bon d'ailleurs pour les émissions de CO2, mais j'avais pris un avion ministériel et j'avais fait le tour en un week-end du Premier ministre indien, Modi, du président de l'Afrique du Sud et de la présidente du Brésil, parce que je voulais être sûr que eux nous soutiendraient. Bon, l'objet de la COP, vous le connaissez, c'était pour la première fois de fixer l'objectif à atteindre 1,5 degré, pas plus d'1,5 degré d'augmentation de la température, ce qui permettrait, bon, les mots ont l'air immenses, mais c'est ça que ça veut dire, de sauver l'humanité. Bon, c'était la première fois donc qu'on fixait un objectif et il fallait obtenir un accord mondial
mais
de tout le monde.
Ça, on le sait, Laurent Fabius.
Oui, attendez.
Ouais.
Et pourquoi ces applaudissements, cette émotion, alors qu'on avait affaire à des chefs d'État, de gouvernement, à des ministres, etc. C'est que ça faisait des années et des années qu'on y travaillait, qu'on n'y était jamais arrivé, et que là, pour la première fois, on avait un accord mondial de tout le monde. Alors, le drame, c'est que, même si cet accord a été conclu, ce qui est formidable, il n'est pas respecté.
Quand vous le regardez, ce marteau, est-ce que vous vous dites pas aujourd'hui que tout le monde l'a trahi ?
Non, pas tout le monde. Les scientifiques, pourquoi on a réussi à Paris ? Parce qu'il y avait 3 planètes qui se sont rencontrées, les scientifiques. Et les scientifiques ont continué à faire un travail remarquable. Vous avez des rapports du GIEC périodiques, il va y en avoir un dans quelques jours, qui va être d'ailleurs désastreux. Bon, mais ils continuent leur travail scientifique et ils trouvent des nouvelles choses. Bon, la société, c'est-à-dire à la fois les régions, les communes, les entreprises... on fait aussi beaucoup de travail, et vous devez le voir autour de vous, alors que jusque-là, on disait « mais non, ça n'existe pas, le réchauffement, et puis l'homme vieux problème ». Bon, maintenant, vraiment, je crois que le climato-scepticisme a reculé énormément.
Mais alors, la température continue de grimper énormément aussi.
Même si, dans certaines entreprises, il y a ce qu'on appelle du greenwashing. Bon. Mais ce qui ne va pas, et je suis clair et net, c'est le comportement d'un certain nombre de gouvernements. Pas tous. Il y en a qui font de bonnes choses. Mais vous avez des puissances très émettrices qui continuent, par court-termisme, par nationalisme, à ne pas respecter les objectifs de Paris, ce qui va conduire, s'il n'y a pas d'évolution, l'humanité à sa perte. Lundi dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est un homme informé et posé, a prononcé cette phrase « Si les choses ne changent pas, l'humanité court à la catastrophe les yeux fermés ». C'est pas la planète qui va disparaître, la planète elle sera là.
Mais
toute une partie de l'humanité sera détruite.
Ailleurs. Bon. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Voilà,
Chirac. C'est 2002, bon. Johannesburg.
Et donc, la responsabilité principale, pas la seule, mais principale, elle est au gouvernement. Mmh. Alors, au pluriel. Alors, dans les pays démocratiques, il y a une possibilité, et j'espère qu'elle sera saisie, c'est le bulletin de vote. Bon, on veut dire, on n'est pas d'accord, ou il faut faire plus, etc. Bon. Mais dans les pays autocratiques, qui sont nombreux, puissants, et souvent, ce sont les plus grands émetteurs du monde, ça repose entièrement sur les gouvernants. Et si les gouvernants font du court-termisme, c'est dramatique pour l'humanité. Et de ce point de vue-là, le conflit Ukraine-Russie actuel peut donner deux résultats complètement opposés l'un à l'autre. Ou bien, et ce serait la sagesse, dire, mais pourquoi sommes-nous tellement dépendants de la Russie? Parce que c'est l'économie fossile. Et donc, il faudrait aller vers les renouvelables, vers les économies, etc. Ça, c'est la bonne. Mais vous pouvez avoir aussi des conséquences désastreuses. La population disant, ah ben écoutez, c'est quand même bien utile le pétrole, c'est bien utile le gaz, donc il faudrait continuer, il faut même accélérer, et il faut réouvrir le charbon. Et vous avez les deux possibilités qui sont là, et là encore, la réponse va appartenir au gouvernement. Donc, c'est pourquoi je me suis tellement investi, et je continue d'ailleurs à le faire, puisque en tant que père de l'accord de Paris, les autorités internationales continuent à m'associer à tout cela. Mais vraiment, c'est le combat de ma vie, parce que c'est le combat de la vie.
Mais qui, encore une fois, ne mobilise pas toujours l'opinion. On peut dépenser des milliards et des milliards pour lutter contre le Covid, et à juste titre, sans doute, mais sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous diriez?
Ben,
vous
c'est avez... ce que j'explique dans le livre Rouge Carbone.
Absolument.
Je dis, il est quand même extraordinaire qu'on ait dépensé des milliers de milliards pour la Covid, et on a eu raison de le faire. Mais le dérèglement climatique... qui, aujourd'hui, demain, après-demain, va coûter beaucoup plus de vie, encore, et qui peut détruire l'humanité, on ne fait pas le même effort. Simplement parce que derrière, je crois, j'ai beaucoup réfléchi à ça, on n'associe pas, alors ce que je dis est dramatique, on n'associe pas l'image de la mort au dérèglement climatique, alors que ça va se traduire, si on n'inverse pas la tendance, par un nombre... épouvantable de catastrophe.
La COP 21, c'était il y a 7 ans, ce marteau, il a 7 ans. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un petit bonhomme de 7 ans ?
Ben qu'il faut que lui-même, dans ses pratiques, ses parents, ses grands-parents, quand il sera électeur un peu plus tard, il mette au premier plan cette exigence. Et d'ailleurs, c'est pas ma voix qui est importante. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez des enfants, enfin en tout cas vous connaissez des jeunes, spontanément, ils sont très sensibles à cela.
Il faudra leur demander pardon un jour à tous ces jeunes ?
Et non, il faut agir pour ne pas avoir à leur demander pardon.
Revenons à la présidentielle, Laurent Fabius. Vu sourire, hein. Le chiffon rouge, chanson militante des années 70, du temps où les Français croyaient qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs, pensaient vraiment que la politique pouvait changer le monde. Aujourd'hui, l'abstention pourrait être la grande gagnante de la présidentielle. Comment vous le vivez ?
Alors, vous savez, vous l'avez dit au début de l'émission, que maintenant je suis président du Conseil constitutionnel, donc j'ai prêté serment de ne pas prendre de position politique. Et malgré toute l'estime que j'ai pour France Inter et pour vous-même, je ne vais pas violer mon serment, ni aujourd'hui, ni demain.
Mais vous pouvez parler aux désabusés de la politique.
Oui, et en même temps, ma parole sera insuffisante. Bon, je dirais des choses très banales. On a la chance d'avoir un bulletin de vote. Chance que n'ont pas des milliards de personnes dans le monde. Et donc, c'est vraiment faire preuve de, j'allais dire, d'égoïsme que ne pas se prononcer. Voilà. Alors, c'est vrai que, en même temps, quand on prend la situation française au sens large, et quand on regarde les études d'opinion, il y a beaucoup de gens qui sont déçus, etc. C'est une évidence. Mais cela étant, il faut choisir, et on ne peut pas à la fois protester et ne pas utiliser ce qu'une démocratie nous donne pour protester sans violence, qui est le bulletin de vote.
Avec le recul, est-ce que vous avez vraiment craint que certains candidats importants ne puissent pas se présenter à cause des histoires de 500 parrainages ?
Ah, les parrainages. Alors là, vous savez que le Conseil constitutionnel a un rôle, puisque au terme de la Constitution, nous veillons à la régularité de l'élection, et c'est nous qui regardons cette affaire de parrainage. ce que je vois, si vous voulez, c'est que ça a été une question dont on a beaucoup parlé. juste avant l'élection. Et puis, nous avons donné la liste des parrainages, et maintenant, on n'en parle plus. Mmh. Alors, je ne dis pas que le système soit parfait, mais tout de même, ça aboutit à ce que tous les candidats qui avaient une base importante derrière eux ont obtenu les parrainages.
Donc, il fonctionne pas si mal, ce système, c'est ça ?
Bon,
il faudra changer les règles ou pas ?
C'est pas à moi de le dire, c'est vraiment au législateur. Simplement, je voudrais pas qu'on se retrouve la prochaine fois dans la même situation que cette fois-ci, et que d'ailleurs la fois précédente. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce sujet pendant 5 ans, et arrivé à 1 mois de l'élection, on en parle, à un moment où de toutes les manières, on peut plus changer la loi. Donc, je crois qu'il serait sage que cette question, d'une manière dépassionnée, soit traité au début du prochain mandat, c'est-à-dire qu'on dise au Parlement, écoutez, est-ce que c'est satisfaisant ou pas ? Bon, les parlementaires décideront ce qu'ils veulent décider, mais que ce soit réglé, je dirais, en amont. Parce que on en parle beaucoup à un moment où, de toutes les manières, on ne peut plus rien changer.
Dans 3 ans, Laurent Fabius, vous arriverez au terme de votre mandat de président du Conseil constitutionnel. Oui. Qu'est-ce que vous ferez après ?
Je ne sais pas, je serai très jeune encore. Puisque j'aurai 78 ans.
L'âge auquel Joe Biden a été élu président des États-Unis, ça vous a pas échappé.
Oui, vous savez, j'ai un exemple. Mais après, je vous rassure, qui est l'exemple de Mitterrand. Bon, Mitterrand, la première fois il a été élu, a dit « Oh, bah oui, je suis déjà assez âgé, etc. etc. » Et puis, j'ai observé chez lui une certaine évolution. C'est-à-dire que chaque année, il considérait que l'âge auquel il fallait se retirer prenait 1 an de plus. Bon, mais dans mon cas, non, la politique, c'est derrière moi. Mais entre l'art, le climat, l'innovation, la réalité internationale, l'enseignement, la réflexion, la vie de famille... Bon, un peu de tout ça.
Merci beaucoup Laurent Fabius. On doit à la vérité de rétablir un fait. Loana, qu'on évoquait tout à l'heure dans la piscine, c'était pas dans la Starac, c'était dans le Loft. C'était Loft Store.
Oh là
voilà.
Là, donc,
soyons rigoureux jusqu'au bout. Hein. Merci beaucoup Laurent Fabius d'être venu passer une heure hors piste avec nous. Merci à Marie Mérier, à Claire Destacan à la réalisation, Charlotte Ledoux à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Laurent Baudouin aux manettes. Prochain hors piste dans une semaine, toujours le dimanche, toujours à 17h. Et la règle ici, c'est comme au Conseil constitutionnel, il y a des règles. Le dernier mot revient toujours à l'invité. C'est donc à vous Laurent Fabius.
Alors, on m'avait prévenu qu'il y aurait ce dernier mot. Ça va être une citation et une incitation à lire ou à relire le plus beau discours qui a été prononcé dans la vie politique française, qui est le discours à la jeunesse de 1903, prononcé à Albi par Jaurès, et qui est d'une actualité extraordinaire. Et la fin de ce discours, il parle de mémoire, dit ceci. Le courage, c'est de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réservera à notre effort l'univers profond, et s'il lui réservera une récompense. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Le courage, et ça vaut aussi pour les journalistes, c'est de chercher la vérité et de la dire. Jaurès, 1903.
Merci Laurent Fabius.